Europe Soir Weekend, Pierre de Villeneuve.
Ça fait débat jusqu'à 19h entre Marion Parizet, bonsoir.
Bonsoir.
Spécialiste en politique publique, secrétaire général du Millénaire. Bonsoir à Frédéric Dabi.
Bonsoir.
Directeur général de l'opinion à l'Institut IFOP. On vient d'en parler avec le professeur Co, mais on s'interrogeait sur cette 9e vague qui visiblement donc est bien là, alors que la 8e n'était pas totalement terminée. Ça veut dire qu'elle n'était pas redescendue, on était sur un plateau. Donc on accumule les vagues. D'après ce qu'on a compris et ce que nous disait le professeur Combe, c'est moins grave parce qu'on n'a plus, la gravité du Covid à la toute première vague. Mais quand même, vous aurez remarqué que le gouvernement est assez silencieux. Il y a plus cette vague de culpabilisation de venir toutes les 24 heures dans les médias en disant « Allez vous faire vacciner, il y a la quatrième dose, sinon on va tous mourir, sinon c'est ça ». Comment vous le ressentez?
À un moment, le gouvernement choisit un peu aussi les dossiers sur lesquels il met la pression aux Français. Avec l'hiver qui arrive et tous les messages qui passent déjà sur le fait de contrôler sa dépense énergétique, mettre en plus un message anxiogène sur le Covid, alors que pour le moment, comme on le voit, on a un grand nombre de cas, mais on n'a pas a priori aujourd'hui les signaux qui indiquent que les urgences vont être saturées et que l'hôpital rentrerait là encore dans une nouvelle crise. Donc tant qu'on n'a pas cette crise de l'hôpital qui est vraiment la crise principale, on préserve aussi l'économie, on préserve tous les acteurs qui ont subi, qui ont souffert et qui remontent encore la pente des contraintes qu'il y a eu jusqu'à l'année dernière encore.
Frédéric David.
Oui, je parle à ce que vous venez de dire. C'est vrai que l'opinion publique, cette 9e vague passe complètement sous les radars. Dans notre dernier baromètre, il faut fiducial pour Paris Match, le niveau de discussion, d'inquiétude autour du Covid avait chuté de 40 points par rapport au mois de septembre, où on en parlait encore. Dans un contexte où, oui, les Français sont plus polarisés par les questions socio-économiques, par l'inflation, par le pouvoir d'achat, le gouvernement en parle peu. On est sur la logique et il y a peut-être un changement de pied qui n'est pas dit. Ce n'est pas, comme vous le dites, Pierre, la mobilisation, peut-être une forme de culpabilisation, mais on vit avec. Et c'est le contre-modèle chinois, si je puis dire.
Oui.
On
voit ce qui se passe. Bien sûr,
vous avez vu.
Oui, et en Chine, on voit très bien la véritable saturation d'une, alors avec des gros guillemets, opinion publique qui a été tellement muselée que même dans un régime très autoritaire, elle s'exprime.
C'est la cocotte minute.
Voilà, c'est la cocotte minute. Et je pense qu'en France, compte tenu de l'épuisement des Français, cette multitude de crises encaissées, des indicateurs de pessimisme jamais vus, le gouvernement la joue mezzo piano, si je puis dire. Ça ne veut pas dire que l'opinion publique ne peut pas vite bouger. Ça ne veut pas dire que des réflexes ont tellement été acquis qu'une campagne sur « vous avez plus de X années, allez vous faire vacciner », je pense que les Français répondront.
D'autant que le gouvernement s'apprête à affronter une nouvelle semaine mouvementée à l'Assemblée nationale. On a un 49-3 qui a été déjà annoncé par Madame Borne, qui a dit « on ne va pas reprendre incessamment les mêmes discussions ». Et une motion de censure de LFI qui arrive lundi, Marion Parizet.
Oui, on rentre dans un jeu qui est presque récurrent depuis le début des discussions sur les aspects budgétaires pour cette année qui s'engage. Tout ce qui va se jouer dans les prochaines semaines, au-delà de pouvoir dépasser le blocage potentiel que peut être l'Assemblée nationale sur la validation du budget, c'est la question...
On en est où là? C'est le volet recette du budget de la Sécu, je crois.
On a passé le budget recette cette semaine, justement, il me semble, avec le 49-3. Et aujourd'hui, ce qui se joue, en tout cas pour l'opposition, ce que l'opposition semble jouer, c'est de vouloir en fait sortir gagnant d'un débat qui est plus un débat de communication, de pouvoir montrer que le gouvernement ne souhaite pas discuter, n'est pas prêt à rentrer dans la discussion, n'est pas prêt à faire des concessions malgré une position défavorable en termes de majorité. Mais le gouvernement a l'objectif inverse, de montrer que finalement, lui est pour le fait de faire marcher le pays, qu'on avance et c'est là où vont se jouer les batailles de narratif, j'ai envie de dire. Qui gagnera? Je pense que de toute façon, les électorats sont globalement assez irréconciliables, ou en tout cas, les tendances sont assez irréconciliables. Chacun renforce finalement les partisans de son propre camp.
Frédéric.
Oui, alors déjà, ces débats parlementaires, j'ai envie de dire malheureusement, sont peu vus par les Français. Pour autant, c'est vrai que le 49-3, s'agissant d'Elisabeth Borne, et ma source, c'est le baromètre JDD de la semaine dernière, où au-delà des chiffres, on interroge les Français mécontents ou satisfaits de la chef du gouvernement sur leurs raisons, le 49-3 apparaît comme un élément de mécontentement fort. Et c'est vrai également qu'il y a une vraie mutation du regard des Français. Avant, Pierre, le 49-3, c'était simple. C'était une arme pour un pouvoir exécutif, accepté, acceptable, pour faire passer des lois. On se souvient des 28 fois utilisées par Michel Rocard. Maintenant, et il y a le tournant de l'époque Valls, c'est vu systématiquement comme un passage en force et un déni de démocratie. Mais vous avez parfaitement raison, le gouvernement aura beau jeu, et je pense que ce récit narratif sera compris par beaucoup de Français, à dire nous sommes forcés d'utiliser ce 49-3 pour pouvoir agir, pour voter un budget, car en termes de critique, l'autoritarisme perçu, le déni de démocratie autour du 49-3 pèse infiniment moins fort que le gouvernement ne fait plus rien, il y a une véritable inaction. Ce qui est compliqué pour Elisabeth Borne, c'est que, pour prendre une célèbre phrase qui avait fait rire l'assemblée de Christiane Taubira pendant le mariage pour tous, elle prend le 49-3 par petits bouts. Il est, si je puis dire, saucissonné.
Elle n'arrivait même plus à parler. C'était un dialogue avec Philippe Gosselin.
Voilà.
Qu'il interrogeait.
Très
elle
drôle.
Elle a
eu un fou rire. Voilà. On parle de Madame Taubira.
Regardez ça sur YouTube parce que c'est vraiment à mourir de rire. Voilà. Passer une bonne journée derrière.
Voilà. C'est au-delà de cette célèbre joute parlementaire, c'est l'idée que le 49-3, beaucoup de Français ont l'impression qu'il est partout alors qu'il est seulement circonscrit à un texte, le budget.
Oui, alors ce qui est quand même mal expliqué, je parle sous votre contrôle à vous deux, c'est que ce 49-3, pour tous ceux qui ont fait une première année de droit, on vous explique quand même que c'est un passage en force. Et que... Mais pourquoi ? Parce que ça doit être une mesure exceptionnelle.
Bien sûr.
Parce qu'en temps normal, j'allais dire, la Constitution de la Ve République est faite de cette façon que, en temps normal, on a une majorité absolue à l'Assemblée. Et donc, on n'a pas besoin du 49-3. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas, effectivement, dans... Je reprends votre mot de narratif, Marion. Dans le narratif des Français, il y a un truc qui est pas compris, c'est que généralement, il y a une majorité absolue du gouvernement qui fait qu'on n'a pas besoin du 49-3. Et pourquoi ça a été utilisé en force par Rocard et ça l'est maintenant ? Parce qu'il n'y a pas de majorité absolue.
Exactement.
On n'a pas de majorité absolue, mais par contre, je pense qu'au-delà de ça, ça représente...
Renaissance, hein, oui. Ou ensemble.
Il n'y a pas. Le « on », en l'occurrence, veut dire « il n'y a ». Il n'y a pas de majorité absolue pour le gouvernement, en effet. Par contre, ce qui me paraît intéressant, c'est de voir à quel point, au final, cette utilisation du 49-3 et cette évolution de la vision que les citoyens en ont, elle tient aussi largement à une crise plus globale de la confiance et de la démocratie dans son ensemble. Et en effet, c'est utilisé dans des cas exceptionnels, mais d'une certaine manière, nous sommes un peu dans un cas exceptionnel, dans un contexte de crise politique, parce que notre élection présidentielle s'est tenue dans un contexte également de crise internationale, de post-crise sanitaire, qui a quand même fragilisé la façon dont les... Enfin, de poste
qui continue,
d'ailleurs. Mais du coup, il y a cette dimension de crise en plein milieu qui a joué aussi sur le rapport des Français avec leurs élus et avec leurs représentants. Et je pense que ça joue beaucoup sur cette vision du 49-3.
J'irai même encore plus loin pour un peu prolonger ce que vous dites, Marion. Crise de la défiance et crise de la représentation. La relation représentant-représenté a changé du tout au tout. L'époque qui était, je vous délègue ma voix et en contrepartie, vous êtes une majorité, vous changez la vie, vous transformez le quotidien. L'échec du politique, il est sur dans ce tous impuissants à changer la vie. Donc dans ce cadre-là, beaucoup de Français, et ça a été même une vraie thématique de la France insoumise par le passé, sur le mandat impératif, sur le mandat révocatoire, ça passe mal ce côté, on n'accepte plus le côté « j'ai voté pour vous et pendant 5 ans, vous faites ce que vous voulez ». D'où le succès, il faut le dire, au-delà des critiques et des caricatures, de la démocratie participative, des conférences citoyennes. Et on le voit, nous, à l'IFOP, à l'échelle notamment locale, l'envie des citoyens de s'impliquer dans la décision politique. Donc, c'est vrai que dans ce cadre-là, dans ce décor-là, le recours, et vous avez raison, Pierre, de le dire, parce qu'on est dans un moment inédit. Je crois que Michel Rocard, il lui manquait 11-12 voix. Il faisait jouer l'ami Jean Popraine pour convaincre quelques communistes de voter des textes.
Les Républicains qui ont des cartes en main aussi. Hein.
Exactement. Mais là, le 49-3 qui est pourtant régulé, qui est beaucoup moins utilisable que par le passé, fait que beaucoup de personnes, y compris des gens qui ne sont pas défavorables à l'actuelle majorité, sont choqués, ne comprennent pas ce recours fort, multiple au 49.3.
Après, vous savez, c'est comme dans les dossiers de fiscalistes, les avocats fiscalistes ont toujours moyen de contourner pour faire leur montage financier. Là, c'est pareil avec la Constitution, on l'a expliqué ici même, je crois d'ailleurs avec vous, c'est qu'il y a les sessions parlementaires, et puis on trouve le moyen quand même de faire des sessions extraordinaires, bien sûr. Du coup, vous avez le droit... Oui. À une nouvelle dose de 49.3, ce qui fait que, bon, voilà, il y a quand même quelque chose de mal fichu dans tout ça, parce qu'à chaque garde-fou, il y a un contre-fou. Enfin, c'est quand même extraordinaire. Donc là, on a quand même une semaine qui va être agitée, on l'espère un peu plus calme, parce qu'on a eu des noms d'oiseaux qui n'étaient pas corrects.
Oui. Hein, quand même. Et une petite remarque, c'est toujours catastrophique, et quand on interroge les Français... Il ne restitue pas, c'est quelqu'un de la France Insoumise qui a dit « ferme-la » comme vous le savez, ou d'autres.
Tu vas la fermer.
Voilà, tu vas la fermer, merci de rappeler le texte.
À Sylvain Béliard.
Voilà, qu'il ne méritait sans doute pas. Et c'est vrai que ce type de propos exacerbe le côté tous pourris, le côté cirque, et ça fabrique une seule chose. De l'abstention. Alors bien sûr, on est dans un désert électoral, sauf dissolution. La prochaine élection, ce sont les élections européennes, mais ce type... d'invective ne profite absolument personne et ce cirque joue contre la démocratie.
Cirque ?
Oui, c'est le regard. Les Français, je dis que la semaine parlementaire n'est pas une scène visible, même si elle l'est plus que par le passé, même si les Français étaient quand même satisfaits, on le voyait dès le soir de l'élection présidentielle, à vouloir une cohabitation. On avait été surpris de ces chiffres, ça voulait dire qu'on voulait que l'Assemblée ressemble plus à la composition politique du pays. C'est le cas, le risque c'est l'inaction et le blocage du fait d'une majorité relative. Et il y a aussi, c'est vrai, on espère que ça va un peu s'arranger. Ça va quand même dans le bon... Enfin, ça va un peu mieux, si je puis dire, malgré ce qui s'est passé récemment, qu'il y ait des débats apaisés. Et c'est vrai qu'Yael Braun-Pivet fait beaucoup, je trouve, pour essayer d'apaiser les choses. Mais ça reste compliqué sur un terrain très inflammable et deux forces tribuniciennes qui ont beaucoup de députés, le RN d'un côté et les filles de l'autre.
Oui, parce que base, on a aussi tous les relais qui sont mobilisés aujourd'hui pour faire justement cette communication et donner un élan beaucoup plus large à ce cirque, entre guillemets, mais parce que justement, LFI en fait un outil aussi pour mobiliser son électorat, pour mobiliser ses militants, pour pouvoir dire on est actif comme vous le souhaitez, on dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. C'est un peu le côté horrible des réseaux sociaux et des médias alternatifs qui donne une tribune justement très différente de celle qu'on avait historiquement avant cette arrivée. Et je pense que ça participe justement du fait qu'aujourd'hui, on a du mal à...
Les Français,
Long est toujours un peu...
Long est trop globalisant ou pas assez.
Long est bavard, disait Brigitte Bardot. Attention. Hein.
Les Français ont sans doute du mal à se projeter, à concevoir quel est effectivement le rôle de leurs députés et ce qu'ils font aujourd'hui pour faire changer les choses quand on voit des situations telles que celle-ci. Et d'un côté, des cris d'orfraie, des cris d'oiseaux, des noms d'oiseaux qui sont lancés dans l'hémicycle. Et de l'autre, un gouvernement qui a du mal à pouvoir porter un message qui y rassemble autour de sa position.
Ça faisait cirque ou alors cours d'école. Hein, parce que surtout quand il y a tout le monde qui se lève en disant « maîtresse, maîtresse, il y a lui qui a dit machin, un truc ». Bon, bref.